une publicité à faire pour un livre. Donc, on va, comment dire, proposer un livre du trimestre. On va faire une commande groupée pour ce livre qui s'appelle « L'humilité, la vraie grandeur » par un auteur qui s'appelle Charles-Joseph Mahony. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière, que certains ont déjà lu, mais je pense qu'il serait vraiment utile pour chacun de nous. Donc, je vais juste citer une des recommandations donc à l'intérieur d'un certain théologien. Un merveilleux livre centré sur Dieu, fondé sur la Bible et qui suscite l'humiliation et la réflexion. La vie de son auteur est un modèle de l'humilité qu'il décrit. Je suis particulièrement redevable pour ses suggestions visant à nous aider à cultiver l'humilité devant Dieu au moyen de disciplines pratiques. Ce message contribuera à nous préserver, ainsi que nos églises, de l'autodestruction occasionnée par l'orgueil. Il nous rapprochera de Dieu et fera de nous des personnes reconnaissantes pour les moindres bénédictions de chaque jour. Alors, si vous avez envie de lire ce livre et d'en commander un exemplaire, donc venez me voir à la fin du culte ou répondez au mail dans la semaine. Voilà. Sinon, notre passage se trouve ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens et le chapitre 11. Donc nous sommes à la page 750 pour ceux qui suivent dans les Bibles blanches de l'Église. Le chapitre 11 et les versets 17 à 33. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit: « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guide. Merci pour le Saint-Esprit qui éclaire notre chemin, qui applique cette parole à nos cœurs. Et nous voulons te demander de nous parler par ton esprit ce matin et aide-nous à mettre en pratique, à t'entendre et à mettre en pratique ta parole. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons poursuivre notre série thématique que nous avons commencé au début du mois de décembre. Et c'est une série thématique qui a pour sujet l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Qu'est-ce que c'est l'Église ? Alors, qu'est-ce que nous avons vu jusqu'ici ? Alors, lors de la première prédication, nous avons vu que l'Église de Jésus-Christ est le peuple de Dieu qui est né et nourri de la parole de Dieu. On a fait un survol de la Bible pour voir ça. Nous sommes venus à la foi grâce à l'Évangile. C'est ce que c'est nous et qui t'ont dit ce matin. Et c'est ce même Évangile qui nous fait grandir en Jésus-Christ, semaine après semaine, pour mieux ressembler à Jésus-Christ. Ensuite, lors de la deuxième prédication, nous nous sommes penchés sur la question du baptême. Ce matin, nous avons déjà eu un rappel de ce que c'est le baptême. Avec la scène, le baptême est une des deux ordonnances, ou dans d'autres milieux, il parle de sacrement, que Jésus a donné à l'Église. Ces deux ordonnances, qu'est-ce qu'elles sont ? Elles sont des paroles visibles que Dieu nous a données pour fortifier notre foi et par lesquelles nous pouvons exprimer notre foi aussi, notre dépendance de Dieu. Le baptême, comme nous avons dit ce matin, nous rappelle que l'Église, la communauté des baptisés, est fondamentalement ce peuple qui est uni par la foi à Jésus-Christ, uni à lui dans sa mort comme dans sa vie de résurrection. Nous sommes le peuple qui, par la foi, est au bénéfice de la mort de Jésus-Christ et au bénéfice de sa vie de ressuscité. Alors, ce matin, nous allons parler de la scène, le repas du Seigneur. D'autres traditions l'appellent l'Eucharistie. Alors, à ma connaissance, on n'a jamais abordé ce sujet à la Garenne. Alors, cet enseignement sera à la fois positif, on va voir ce que c'est la scène, et cet enseignement sera un peu négatif si on veut, on va essayer de nous protéger de certaines erreurs qui pourraient nous éloigner de la foi, cette foi qui sauve. On pourrait se dire, est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu théorique ? Mais vous savez, tout enseignement biblique a pour but de nous permettre à mieux connaître Dieu, à l'aimer davantage et à le servir plus fidèlement. Et ma prière pour ce matin, c'est qu'en nous penchant sur la scène, ça nous aide dans les semaines à venir à grandir en Jésus, semaine après semaine, repas du Seigneur après repas du Seigneur. Alors, nous avons lu un texte dans cette première épître de Paul aux Corinthiens et celui-ci est le texte principal de ce matin, mais c'est aussi une prédication thématique que je vais faire référence à d'autres textes aussi, juste pour compléter un peu les choses. Alors, pour vous faire peur, je vous annonce que j'ai 6 points. 6 points quand même relativement brefs. Et dans la préparation du message, juste pour citer mes sources, pour être transparente, c'est le pasteur John Piper qui m'a aidé à structurer en tout cas les 6 points, ou en partie quelques-uns de ces 6 points. Alors, le repas du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous lui donnons ce nom ? Le mot « la scène » vient du latin et signifie le repas du soir. Donc, c'est notre dîner, ou si vous êtes suisse, c'est votre souper. Et ce repas du soir renvoie bien sûr au dernier repas de Jésus. Ce repas qu'il a partagé avec ses disciples dans la chambre haute avant d'aller donner sa vie à la croix. Et les évangélistes Matthieu, Marc et Luc lui racontent cet épisode avec quelques nuances différentes. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que Jésus institue ce repas comme un repas d'alliance, un repas à répéter en souvenir de Jésus lui-même. Et l'Église primitive, comme notre passage de ce matin nous l'indique, c'est un des premiers écrits chrétiens, cette première lettre de Paul aux Corinthiens. Le fait de partager le repas du Seigneur est devenu une pratique très tôt dans la vie de l'Église. Ils ont suivi ce commandement du Seigneur. Ce repas est son repas. Et si nous le célébrons avec solennité, c'est parce que notre Maître, notre Seigneur, Jésus-Christ, l'a institué lui-même. Et c'est notre privilège d'y participer. Jésus nous l'a donné parce qu'il est venu faire du bien. Ce repas est quelque chose par lequel Jésus est venu faire du bien. Et donc nous avons intérêt à le prendre au sérieux, à le chérir et en profiter au maximum. Si Jésus, qui est le Sauveur, est votre Seigneur, ce repas est pour vous. Comme nous avons vu ce matin, l'autre ordonnance, ou sacrement, le baptême, précède logiquement l'entrée dans l'Église et donc la participation à ce repas. Nous entrons dans la vie de l'Église par le baptême et ensuite dans la communauté visible des baptisés, nous prenons la scène. Ce repas qui nous est donné par notre Seigneur lui-même. Voilà la logique. Ceci dit, nous n'en faisons pas une loi absolue. Nous conseillons cette logique, ça semble être la logique de la Bible, sans qu'il y ait des textes explicites qui disent « ouais, il faut absolument suivre cette logique-là ». Mais c'est ce que nous recommandons, surtout aux parents de l'Église, pour leurs enfants qui grandissent, ou pour ceux qui sont vraiment réguliers dans l'Église. Si vous êtes à Jésus, si le Sauveur est votre Seigneur, ce repas est pour vous. Alors, si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas encore été baptisé, plutôt, si c'est quand même votre cas, vous êtes vraiment au Seigneur, mais vous n'avez pas encore été baptisé, pourquoi ne pas venir m'en parler après? Ça serait un plaisir de vous baptiser, c'est un sujet de joie pour l'Église. On va passer à ce deuxième point. C'est le repas du Seigneur par lequel nous proclamons l'Évangile. Et ce point sera un peu indissociable des autres points, des points suivants. Nous arrivons au sens profond de ce repas, le pourquoi de cette ordonnance. Nous allons voir que contrairement aux catholiques, nous ne croyons pas que le pain et le vin se transforment pour devenir la chair et le sang de Jésus. Ce repas n'est pas un repas littéral de sa chair et de son sang. Toutefois, il est porteur de sens, de signification profonde. Ce repas que notre Seigneur nous a donné est un repas par lequel nous proclamons la bonne nouvelle. On voit cet enseignement au verset 26. Jetez un coup d'œil sur le verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce repas n'est pas un repas caché ou mystique, mais il est un événement public de l'Église. C'est un repas pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, mais nous nous attendons à ce qu'il y ait des non-croyants présents parmi nous le dimanche matin. C'est normal et c'est bien. Alors si c'est votre cas ce matin, j'aimerais saluer votre présence parmi nous. Ça fait plaisir de cheminer avec vous et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et j'espère que ce culte vous aidera à mieux cerner le pourquoi de la foi et la grandeur de Jésus-Christ. En prenant la scène, le repas du Seigneur, nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ. Nous proclamons que si nous vivons, si nous avons la vie en Jésus-Christ, c'est grâce à sa mort sacrificielle. Cette mort par laquelle Jésus a porté le juste châtiment de tous ceux qui avaient et qui allaient mettre leur foi en lui. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous avez été rendu à la vie, spirituellement et un jour corporellement en Jésus-Christ. Cette espérance, nous l'avons proclamée haut et fort ce matin par ces deux baptêmes. Et la scène proclame la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Car Jésus n'est pas resté mort, il est vivant et il revient. Nous proclamons la mort de Jésus, mais cette mort qui a mis fin à la mort. John Owen, un théologien du XVIIe siècle, parlait de la mort dans la mort de Jésus. Je ne sais pas si vous suivez la logique. Si nous proclamons sa mort, c'est parce que sa mort est la victoire sur la mort. Quelle bonne nouvelle! Une nouvelle qui vaut la peine de proclamer haut et fort dans une société qui souffre tant de la dépression, de la maladie, du manque d'espoir. Et nous, nous avons une espérance ferme et la vie a un sens grâce à Jésus. Le repas du Seigneur, c'est le repas que nous prenons pour nous souvenir de Jésus. Suivant les paroles de Jésus lui-même, nous prenons ce repas en mémoire, en souvenir de lui. Au verset 24 et 25 de notre passage, nous voyons l'instruction de Jésus, l'enseignement de Jésus. Après avoir rendu grâce, Jésus rompit le pain et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance. » en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps », il parle de manière figurative ou imagée. Il était à table avec ses disciples. Le pain était sur la table. Il a pris. Il a rompu. Il en a sans doute mangé lui-même. Les disciples ont bien compris l'image. Ils n'ont pas confondu le pain sur la table avec le corps présent dans la salle de Jésus. Jésus a utilisé beaucoup d'images dans son enseignement. Il a dit « Je suis la porte ». Il a dit « Je suis le chemin, je suis le cep, je suis le bon berger. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Et ainsi de suite. Jésus a utilisé des images pour nous expliquer qui il était, qui il est. Nous nous méprenons lorsque nous prenons ces images de manière littérale. Nous tordons le sens des mots de Jésus. Jésus nous demande de prendre un peu de pain ensemble et de boire du vin ensemble, non pas pour manger sa chair ou pour boire son sang de manière mystique ou de manière littérale, mais pour que nous nous souvenions de lui. Alors c'est une action mentale ou cognitive. Ce n'est pas une expérience qui dépasse notre entendement, et cela parce que le Dieu qui nous a créés ne fait jamais abstraction de nos cerveaux, de nos pensées. Et cela, je pense, parce que notre pensée ou notre action cérébrale est en effet la porte de notre cœur, le siège de notre volonté et de nos émotions. Et Jésus veut que nous centrions nos pensées sur lui et sur tout ce qu'il a accompli à la croix. Il a donné son corps pour porter le châtiment qui aurait dû être le nôtre. Il a versé son sang pour apaiser la juste colère de Dieu à l'égard de notre péché. Il nous a ainsi lavés de nos péchés. Jésus veut que notre pensée soit centrée sur lui et sur son sacrifice. Alors la scène n'est pas l'occasion de refaire le sacrifice de Jésus. Nous avons tous sans doute des amis catholiques qui nous sont chers. L'Église catholique pense que la scène est un sacrifice eucharistique. Là, je cite Vatican II. Un sacrifice pour perpétuer le sacrifice de la croix. Et c'est pour ça qu'ils affirment qu'il y a ce qu'ils appellent la transsubstantiation. Ce changement réel, mais pas visible, des éléments, le pain et le vin, en la chair et le sang de Jésus, qui sont donc offerts en sacrifice eucharistique. Et c'est pour ça qu'on peut bien comprendre pourquoi les catholiques, pourquoi la scène est si importante pour les catholiques. C'est pour ça qu'elle est enrobée d'un air spirituel si intense. C'est pour ça qu'ils vénèrent l'hostie ou le sacrement. Ils pensent ainsi vénérer Jésus lui-même. Mais si nous revenons aux paroles de Jésus lui-même, nous découvrons une description beaucoup plus sobre de ce repas. C'est avant tout un repas mémorial où nous nous souvenons de Jésus. C'est avant tout le repas de la nouvelle alliance scellée en son sang. Et cette nouvelle alliance a été scellée une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus à la croix est pleinement suffisant pour régler le poids de nos fautes, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Il n'est jamais question d'autres sacrifices dans le Nouveau Testament, si ce n'est le sacrifice de notre louange, c'est-à-dire notre obéissance à Jésus dans la vie quotidienne. Mais ce sacrifice-là n'a rien à voir avec celui de Jésus. Le sien est complet, fini, suffisant et terminé. Et tant mieux parce que notre assurance, notre paix en dépendent. Jésus nous demande de penser à lui lorsque nous prenons un peu de vin et un peu de pain. La foi chrétienne est une foi objective. Elle est fondée sur des événements concrets et historiques. Jésus nous appelle à nous souvenir de sa vie, de tout ce qu'il a fait dans sa vie, de sa mort à un moment précis de l'histoire, de sa résurrection, un événement attesté par un bon nombre de témoins. Ces choses qui ont eu lieu à un moment précis de l'histoire. Mais bien sûr, le fait de se souvenir de Jésus n'est pas juste un exercice cognitif, intellectuel. Mais c'est quelque chose de spirituel et émotionnel aussi. Parce que le diable peut se souvenir de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Il en est bien capable et je pense sans doute, il pense à ces choses. Mais il ne peut pas le faire comme un chrétien le fait, comme l'enfant de Dieu le fait. C'est le repas du Seigneur par lequel nous nous nourrissons par la foi de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est notre quatrième point. Le fait de nous souvenir de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, est comme si nous entrons dans une salle de banquet, dans une salle de fête. Et c'est Jésus lui-même qui a utilisé ce genre d'image. Dans Jean chapitre 4, Jésus nous dit qu'il nous donne une eau vive qui étanche notre soif à tout jamais. En Jean chapitre 6, verset 35, Jésus a dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Plus loin, Jésus dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Quelques versets plus loin encore, donc verset 51 du chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus dit, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Alors, si nous devions mettre de côté le contexte de Jean chapitre 6 et si nous devions appliquer cet enseignement directement à la scène, je pense qu'on serait bien tenté de suivre l'enseignement catholique. Mais Jésus dit ces mots bien des mois avant ce dernier repas, bien avant sa mort. Et le contexte nous montre qu'il nous invite à croire ses paroles, à venir à lui et à croire ses paroles. C'est une invitation à vivre grâce à ses paroles, grâce à ses promesses. Nous avons étudié ce chapitre en détail au mois de novembre, donc si vous avez envie de réécouter ou d'écouter pour la première fois ces messages, ils sont sur le site internet de l'Église. Mais pour revenir à la scène, ces images de Jésus nous montrent ce que Jésus a accompli à la croix pour nous est vraiment un repas, un vrai repas spirituel. Ces paroles, les promesses de Jésus peuvent vraiment satisfaire nos âmes. Et Jésus, en nous invitant à nous souvenir de lui, nous invite à étancher notre soif spirituelle, à satisfaire notre faim spirituelle. Lorsqu'on se souvient de Jésus, nos cœurs se lèvent pour remercier Dieu, Dieu le Père, pour tous les bienfaits présents et actuels qui découlent de Jésus, de la vie de Jésus, du sacrifice de Jésus, de ce sacrifice pleinement suffisant. Le chapitre 10 de cette première lettre de Paul aux Corinthiens, donc quelques versets auparavant, évoque l'idée de communion. C'est un passage qui parle de... en fait, le contexte, c'est les sacrifices offerts aux idoles. Mais c'est un passage qui évoque l'idée de communion avec Dieu, et cela par le biais d'un repas. Là, il est dit, Paul a dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Parce que quelque part, ce repas représente notre lien très fort avec Jésus-Christ. Lorsque nous nous souvenons de lui, nous goûtons à sa bonté, nous savourons sa bonté. Lors de la scène, en nous souvenant de Jésus, nos cœurs peuvent se remplir de reconnaissance et se lever pour louer Dieu pour le pardon de nos péchés, pour la libération de la peur de la condamnation. Par son sacrifice, Jésus nous a libérés de la colère de Dieu. À la croix, Jésus a été rendu honteux pour prendre notre honte. Par son sacrifice, Jésus nous a procuré la paix avec Dieu. Nous sommes dorénavant ses enfants adoptifs. Dieu est devenu notre Père qui nous aime, qui nous guide, qui est présent avec nous, qui nous discipline pour notre bien et pour notre protection. En Jésus, uni à lui, nous avons une espérance ferme. Les liens de la mort ont été rompus à tout jamais. En prenant un peu de pain et un peu de vin, nous nous souvenons de Jésus et nous goûtons tout à nouveau à toute la splendeur de cette alliance. Nous anticipons aussi le repas, le banquet du peuple de Dieu venu de l'Est et de l'Ouest, qui va se rassembler pour l'éternité autour de Dieu, autour du Père et de l'agneau. En prenant la scène, nous nous nourrissons par la foi de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Dieu fortifie notre foi, semaine après semaine. La scène nous centre sur Jésus, sur la croix, sur tous les bienfaits éternels et présents qui en découlent. En la prenant avec foi, on savoure la bonté de cette alliance, de Jésus lui-même. T'en passe, j'aimerais bientôt terminer. Donc, cinquième point, c'est le repas du Seigneur, par lequel nous vivons l'unité de l'Église dans l'amour. Et c'est tout le contexte de notre passage dans 1 Corinthiens qui proclame l'importance de ce point. Le repas du Seigneur est un repas communautaire de l'Église. Oui, il n'est pas exclu de le faire de temps en temps, en petit groupe, ou par exemple s'il y a quelqu'un qui est malade à l'hôpital ou à la maison, on peut le faire. Mais avant tout, c'est un repas pour l'Église réunie ensemble le dimanche matin. À Corinthe, Paul déplore le manque d'unité dans l'Église. Il leur dit que leur repas n'est pas le repas du Seigneur, car lorsqu'ils se réunissent, c'est le bazar. Les versets 20 et 21 nous disent « Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. » Et Paul déplore cet individualisme où c'est chacun pour soi. Et le conflit qu'on peut cerner un peu dans ce passage est celui entre les riches et les pauvres. Il peut y avoir bien d'autres types de conflits dans une église aussi. Et Paul utilise un terme extrêmement fort, le terme « mépris ». Paul dit que c'est l'église, le corps de Christ, qui est méprisé lorsque quelques-uns de ses membres sont méprisés. Et ça veut dire que nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons même dire « oui, j'aime bien participer à la scène », on peut même dire « j'aime mon église locale », tout en la méprisant profondément. Paul part du repas dans cette section pour décrire le manque d'unité dans l'église de Corinthe. Il a déjà préparé son argumentation dans le chapitre précédent, où il a dit que « puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Le repas du Seigneur nous met tous devant notre seul maître, Jésus-Christ. Nous sommes un seul corps qui dépend de Jésus-Christ. L'un n'est pas supérieur à l'autre. L'un n'est pas inférieur à l'autre. Certes, nous avons des dons, des rôles, des services différents, mais nous sommes un. Sixième point, dernier point. Le repas nous donne l'occasion de nous examiner à la lumière de l'Évangile de la grâce. C'est un repas très solennel, un repas à prendre au sérieux. Et le manque d'unité à Corinthe posait vraiment problème. C'est pour ça que Paul ne mâche pas ses mots dans ce passage. Nous sommes à ce dernier point, et on va bientôt terminer, mais c'est vraiment les versets à la fin de ce passage que je veux mettre en valeur. Ces versets sont à la fois sombres et lumineux. Sombres parce que Paul parle de jugement. Lumineux parce que ce jugement est le signe de la grâce de Dieu. Le verset 27 parle du cas où on mange le pain et où on boit la coupe indignement. Celui qui fait ça se rend coupable envers le corps et le sang de Jésus. Donc c'est très grave. Et Paul dit que dans ce cas-là, c'est le Seigneur lui-même qui nous discipline. Il s'agit d'un jugement disciplinaire pour nous éviter d'être condamnés, c'est-à-dire traité comme un non-chrétien, celui qui n'a pas encore mis sa foi en Jésus-Christ. Et ce jugement n'est pas une mince affaire non plus. Le verset 30 parle de malade et même de décès. Alors qu'est-ce que ça veut dire de manger indignement le repas du Seigneur? Il y a des avis différents. C'est le verset 29 qui met son doigt sur le problème. Il s'agit de ne pas discerner le corps du Seigneur. Alors, lorsque Paul parle du corps du Seigneur, il pourrait évoquer deux choses. Il pense peut-être au fait de ne pas se souvenir de Jésus et de tous les bienfaits présents et éternels qui découlent de la croix. Au fait de prendre ce repas à la légère. Alternativement, il pourrait évoquer l'Église, qui est le corps du Christ. Il a déjà utilisé ce vocabulaire au chapitre 10. Et on voit le contexte de ce passage est un contexte de conflit dans l'Église, où certains méprisent d'autres par leur comportement lors de la scène. Que décider? Ce manque de discernement du corps pourrait englober ces deux points. Ce n'est pas toujours le cas que deux points différents sont forcément réunis, mais peut-être on peut les voir ensemble. Si on apprécie à quel point nous devons tout au Seigneur, à quel point nous avons été pardonnés, si nous discernons vraiment la grandeur et la beauté de l'évangile de la grâce, nous nous comporterons en conséquence avec nos frères et sœurs. Nous leur montrerons cette même grâce. Jésus a exprimé négativement le lien entre ces deux choses en disant « Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu ». Et positivement, on pourrait dire « Celui qui a expérimenté la grâce immense de Dieu aimera ses frères et sœurs avec abondance. » La scène nous donne l'occasion de nous examiner sobrement. Suis-je en train de vivre cet évangile de la grâce? Est-ce que je discerne cette grâce dans l'œuvre du Seigneur à la croix? Est-ce que j'applique la règle qui m'a été appliquée par le Seigneur lui-même à mes propres frères et sœurs? Suis-je en train de leur montrer cette même grâce? Ce repas est aussi à prendre dans une attitude de repentance. Il ne s'agit pas de nous rendre dignes ou méritoires de ce repas. C'est un repas qui n'est offert qu'aux pécheurs. Mais c'est un repas qui se vit dans la communauté de ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur et qui partagent cette grâce. C'est un rappel de vivre cette grâce. C'est un rappel solennel. Si pour vous la mort de Jésus n'a pas encore du sens, si vous n'avez pas encore accepté la grâce, ce pardon si généreux du Seigneur, c'est vrai, il vaut mieux s'abstenir de ce repas. Et si vous êtes en foi avec vos frères et sœurs, si vous ne pouvez pas leur montrer cette grâce qui vous a été montrée par Jésus-Christ, abstenez-vous d'en prendre pour un moment. Mais en même temps, centrez vos pensées sur Jésus. Parce que c'est que cette grâce en Jésus qui peut nous donner le vouloir et le faire d'aimer à notre tour nos frères et sœurs. Ce repas est un don extraordinaire du Seigneur, parce qu'il veut nous faire du bien. Il veut nous centrer sur lui, sur la croix. Il veut que nous nous nourrissions de lui, de ses promesses qui sont sûres et certaines. Alors, on ne va pas célébrer la scène cette semaine, mais la semaine prochaine, on aura l'occasion de célébrer la scène ensemble. Et je vous invite à prendre le temps cette semaine à vous y préparer, à discerner toute la grâce du Seigneur qui est symbolisée dans ce repas, et aussi à discerner son corps qui est l'Église, et à l'aimer, et cela pour exprimer à Dieu toute notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus à la croix. Je vous invite à la prière. Prions. Merci notre Dieu pour Jésus. Merci pour notre Sauveur. Merci pour notre Seigneur. Merci de ce qu'il est lui-même, le repas qui nous donne la vie éternelle. Ce repas qui étanche notre soif, qui fait cesser notre faim. Père, nous voulons te demander de nous aider à vraiment nous nourrir de lui par la foi, semaine après semaine. Dans notre lecture personnelle, notre lecture personnelle à la maison, notre lecture à l'église de la parole, et aussi dans cette parole visible qui est la scène. Merci pour ce repas, et Père, nous voulons te demander de nous aider à nous y préparer, nous préparer pour la semaine prochaine. Nous voulons te demander de nous toucher par cette grâce, afin que nous soyons capables, à notre tour, d'aimer nos frères et sœurs comme tu les as aimés aussi. Nous te demandons ces choses, au nom de Jésus. Amen.